quand tu viens devant Dieu par la prière, sois dans ta pensée comme un enfant qui balbutie. Et ne dis rien devant lui que tu prétendes savoir. Approche Dieu avec un cœur d'enfant. Va devant lui pour recevoir cette sollicitude avec laquelle les parents veillent sur leurs tout-petits-enfants. Prie donc sans attendre, supplie de tout cœur, demande ardemment jusqu'à ce que tu reçoives, mais ne te relâche pas. Ces choses te seront données si tout d'abord, de toute ta foi, tu te fais violence pour confier à Dieu ton souci et pour remplacer ta propre prévoyance par la providence de Dieu. Ce texte que je me permets de vous partager ce matin, en guise un peu d'introduction, c'est un texte d'Isaac le Syrien ou d'Isaac de Ninive, du 7e siècle. Alors c'est vraiment un beau texte. Et juste, j'avais la curiosité de savoir où était Ninive aujourd'hui, puisqu'elle a disparu. En fait, c'est tout proche de Mossoul, en Irak. Alors soyez les bienvenus à toutes et à tous pour ce culte à l'église évangélique de Mérin. Merci en tout cas de votre présence et peut-être pour les s'il y a des visages un peu nouveaux, soyez aussi cordialement bienvenus parmi nous. Nous allons prier et remettre à Dieu ce moment. Et je laisserai peut-être un temps après ma prière pour que dans vos pensées, vous pensiez à peut-être quelqu'un de malade, quelqu'un qui n'a pas pu venir pour des raisons X, Y. Alors je vous laisserai un petit temps aussi de remettre toutes ces personnes. Alors Seigneur Jésus, nous voulons t'accueillir ce matin dans ce lieu de culte. Merci parce que nous sommes une famille, cette famille, ta famille. Nous sommes tes enfants. Et Seigneur, nous voulons te parler, nous voulons dialoguer avec toi comme si nous étions tes enfants. Alors Seigneur, merci de ta présence, merci de nous parler, merci de nous donner une parole qui nous encourage. Et Seigneur, que c'est surtout ta présence que nous voulons, car c'est ta présence, Seigneur, qui nous fait du bien. Et Seigneur, nous voulons aussi que ce culte te glorifie. Alors viens dans cette maison, Seigneur Jésus. Amen. Oui, Seigneur Jésus, merci d'avoir entendu tous les noms prononcés dans nos cœurs. Et Seigneur, que tu sois aussi proche d'eux en ce moment. Et Seigneur, notre famille ne s'arrête pas aux personnes de ce bâtiment, mais Seigneur, à tous ceux que nous aimons. Alors Seigneur, sois aussi présent auprès d'eux. Amen. Je vais passer la parole à Denise. Elle nous fera une petite introduction au thème qui est la prière, qui est la prière, donc Denise vous fera une petite introduction.
Vous l'aviez peut-être deviné grâce à cause du texte de Claude, et puis je ne sais pas si certains se sont déjà amusés à lire les quelques papiers que j'ai affichés, vous pourrez les regarder encore après. Le sujet c'est la prière, mais plus particulièrement la difficulté du non-exaucement de la prière. Parce que quand on prie ardemment pour quelque chose avec sincérité, avec foi et qu'on n'est pas exaucé, c'est difficile à vivre. C'est vrai que parfois on ne voit pas l'exaucement à une prière. Parce que quand elle est exaucée, on a oublié qu'il y avait un problème. Comme quand on a mal quelque part, et puis c'est au bout de quelques jours qu'on se dit « Ah, mais j'ai plus mal !» Ou bien parfois aussi, c'est parce que la réponse à la prière est différente de celle que nous avions imaginée. Je me souviens que j'ai prié pour quelqu'un qui était craintif, et dans ma prière, c'était pour que, à l'intérieur de cette personne, Dieu fasse quelque chose. Puis je ne voyais rien venir, jusqu'au jour où j'ai réalisé que cette personne avait lié amitié avec une autre personne croyante qui était confiante dans la vie, confiante en Dieu, et qui pouvaient lui apporter quelque chose par la relation qu'elles avaient entre elles. Puis c'est aussi peut-être que des fois, l'exaucement met beaucoup, beaucoup de temps à venir. Et quand j'ai entendu Emmanuel Tzili l'autre dimanche qui nous parlait des chrétiens chiites qui remplissaient une église à Beyrouth le dimanche matin, je me suis dit peut-être que c'est la réponse aux milliers de prières qui sont montées pour les musulmans depuis tant d'années. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a réellement des prières qui ne sont jamais exaucées. Ou bien qui mettent tellement de temps à venir que ça revient au même. Quelqu'un me disait, Dieu, parfois il me dit oui, parfois il me dit non, parfois il me dit attends, et parfois il dit rien. Mais Jésus et la Bible nous encouragent à prier, sans cesse. Alors je prie, même si je ne vois rien venir. Dieu est souverain, il n'a pas de compte à me rendre. Et il n'a pas dit son dernier mot. Et pour entrer dans ce culte, à cause du non-exaucement, j'aimerais que nous nous souvenions, nous prenions avec nous cette parole que Dieu est souverain, qu'il n'a pas de compte à nous rendre, mais qu'il n'a pas dit son dernier mot. Il est Dieu.
Et je vous invite à vous lever pour le temps de louange.
Tout l'univers créé par ton pouvoir, le qu'elle puisse y connaître la joie d'être mère. De nombreux enfants qui est comparable à l'Éternel notre Dieu. Il a sa demeure dans les lieux très hauts, qui est comparable à l'Éternel notre Dieu. Il a sa demeure dans les lieux très hauts, et il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre.
Je voulais vous lire quelques petits passages d'un livre sur les méditations sur le cœur du Père, qui s'appelle un livre. Ce livre s'appelle Un Dieu de tendresse. Et c'est Dieu qui parle. Lorsque je te demande de te soumettre à moi, mon bien-aimé, cela ne veut pas dire que je t'invite à mener une vie facile, où tu ne seras plus qu'une marionnette entre mes mains. Je te le dis en vérité, le sentier sur lequel nous marcherons ensemble sera aussi jalonné de larmes, d'épines et de jours sombres. Mais à chaque pas, je tiendrai ta main et te guiderai d'une manière sûre, car je suis l'équilibre. Ensemble, nous garderons ton âme dans la force et la paix. Ensemble, nous triompherons du chaos qui cherche à te détruire. J'ai la puissance de maîtriser toute influence adverse, en toi et à l'extérieur de toi, quelque redoutable qu'elle paraisse. Bénis l'Éternel, mon âme. C'est à cela que je t'invite. Une vie vécue dans le plan de Dieu, une vie qui a un sens et un but, qui est harmonieuse, parce que sous mon contrôle, bref, une vie de plénitude. Allons auprès de Dieu. Crois totalement en moi. Crois totalement en moi. Et tu ne seras pas ébranlé par l'adversité. Tu seras ancré sur ma parole. Je demeurerai en toi et je serai ton soutien.
Je n'ai que toi. Tiens. soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien.
Je n'ôterai pas les obstacles de ton sentier pour les remplacer par des pétales de roses. Mais je te promets de te transmettre ma puissance, ma patience et ma paix. Tu triompheras des difficultés et vivras en nouveauté de vie. Avec moi, les tragédies deviendront des victoires éternelles. Veux-tu me confier les différents domaines de ta vie et me laisser les diriger? Et comme une prière, je vous propose un dernier chant. Ô Dieu, tu es mon Dieu.
Ô Dieu, tu es mon Dieu, et je veux toujours te louer. Ô Dieu, tu es mon Dieu, et je veux toujours te louer. Je te chercherai dès l'aurore, j'apprendrai à marcher dans tes voies. Que je suivrai toute ma vie. Je te chercherai dès l'aurore. J'apprendrai à marcher dans tes voies, et pas à pas tu me conduis, c'est toi que je suivrai toute ma vie.
Amen. Je vous invite à vous rasseoir.
Il y a de magnifiques exaucements de prières, mais il ne faut pas se voiler la face, aussi des fins tragiques malgré la prière et la confiance sincère en Dieu. Quand nos prières adressées à Dieu avec sincérité et persévérance dans la foi, pour un sujet qui nous tient très à cœur, ne sont pas exaucées, ça fait mal. Quand je prie pour un proche souffrant, et que je ne vois rien changer. C'est douloureux, révoltant, incompréhensible. Ça pourrait tuer le désir de prier. Et quand je vois les guerres qui s'enchaînent les unes aux autres, les atrocités commises partout dans le monde, avec leur cortège de souffrances subies par des innocents, je me demande si ça vaut la peine de prier. Où est Dieu? Que fait-il? Existe-t-il seulement? Il n'existe pas de mode d'emploi de la prière, ni de recette miracle qui m'assurerait à tous les coups d'être exaucée. Si cela existait, ça voudrait dire que chaque fois que je ne suis pas exaucée, c'est ma faute. Et ça voudrait dire aussi que j'ai un pouvoir bien grand. La vie m'a appris que ça ne marche pas comme ça. Certaines prières timides sont exaucées. D'autres, faites avec foi et persévérance, ne le sont pas. Je ne crois pas que Dieu fonctionne avec des recettes. Dieu n'est pas un Dieu qu'on manipule ni une divinité lointaine qu'il faudrait apitoyer ou amadouer. C'est un Dieu de relation qui parle et qui écoute. Il a pris la parole et créé la terre et tout ce qui s'y trouve. Dès le départ, il a noué le dialogue avec l'être humain qu'il avait créé. Et il n'a pas cessé de parler avec nous tout au long de l'histoire de l'humanité. Dieu ne désire pas que nous nous soumettions à des recettes, que nous utilisions des trucs avec lui. Ce qu'il désire, c'est vivre une vraie relation avec nous. Donc, ce matin, je ne vais pas vous dire comment faire pour être exaucé, mais comme le non-exaucement est difficile à vivre, je vais vous proposer de nous occuper de nous-mêmes dans ce vécu pour nous encourager à continuer à prier et à croire qu'il nous entend. Et pour commencer, nous allons voir comment Jésus a vécu cela. Il faut que je parle plus fort. Je ne parle pas assez fort avec l'écho. Bon. Et pour commencer, nous allons voir comment Jésus a vécu cela. Son époque n'était pas différente de la nôtre. Il y avait l'occupation romaine, les collabos, l'esclavage, des tas de choses pas rigolotes. Et puis, il a vu son cousin Jean-Baptiste, celui qui avait été envoyé par Dieu pour lui préparer le chemin. Il est mort, la tête coupée, une mort de non-sens, parce que c'était juste le caprice de la fille du roi Hérode. Il n'a pas pu guérir et sauver toutes les personnes qu'il rencontrait. Donc, ce que nous vivons, il l'a vécu aussi. Mais il n'a pas cessé de prier. Lui, le Fils de Dieu, celui qu'on croit omniscient et capable de tout parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est sans péché et que donc il a la ligne directe avec Dieu, il est décrit souvent en prière. Les foules le cherchent, mais il est à l'écart en prière. À la fin d'une journée, il se retire loin des foules pour prier. Avant son arrestation, par exemple, il part avec 3 de ses disciples. On ne connaît pas le contenu de ses prières, comme si elles appartenaient à son jardin secret, à son intimité avec son Père. Mais il n'est pas interdit de penser que Jésus a prié pour partager avec son Père ses joies, ses peines, ses peurs, renouveler ses forces, chercher conseil, ou pour garder le lien avec son Père, pour ne pas tomber dans le piège du pouvoir qu'il aurait pu si facilement exercer sur les foules, avec toutes les réussites par les miracles, et rester à sa place de fils, pas se prendre pour quelqu'un de très important, de se prendre pour Dieu finalement. Jésus a eu besoin de la prière. Jésus n'a pas mis fin aux agissements de ceux qui faisaient souffrir les autres. Ce qu'il a fait, c'est dénoncer l'injustice et l'hypocrisie des riches et des pharisiens, des forts sur les faibles. Il en a appelé à la responsabilité de chacun et il nous a encouragés à prier. Il a donné beaucoup d'enseignements sur la prière et je me suis inspirée de quelques-uns. Pourquoi prier? Pour avoir la réputation d'un homme, d'une femme de prière? Pour être en ordre avec Dieu et avoir bonne conscience en mettant en pratique l'un des piliers de la vie chrétienne, les autres étant la lecture de la Bible, le culte, la dîme, le pardon, l'amour du prochain?
Les lectures que je vais faire ce matin se trouvent dans Matthieu, les chapitres 6 et 7. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout, dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement.
Ce n'est pas pour notre réputation que nous prions. Jésus nous dit de prier dans un endroit secret, caché, dans un lieu bien à moi, où je peux me retirer loin de l'agitation. Un endroit où je pourrais être moi-même, sans le regard et le jugement des autres. Un endroit où ce qui se passera n'appartiendra qu'à moi et à Dieu. Dans ce lieu, je parlerai de ce qui m'accable, de ce qui me peine, de mes désirs et de mes espoirs, et je serai dans l'attente de Dieu. Et c'est Dieu qui me cachera aussi dans un lieu, dans un coin secret, tout près de lui, contre son cœur, dans ses bras d'amour. Et je recevrai ce dont j'ai besoin. Souvent, on croit que faire de longues prières, rester longtemps en prière, est une preuve de notre piété, de notre désir d'être en relation avec Dieu. Qu'en dit Jésus ?
En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez.
Jésus nous dit que Dieu sait. Dieu est un Dieu proche. Je m'adresse à celui qui me connaît et qui ne me rejette pas. Il sait ce que je vis et il accueille ma prière.
Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comme poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous ? » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus.
J'ai choisi ce texte pour mettre en évidence la grande valeur que nous avons chacun aux yeux de Dieu. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Nous sommes des gens de peu de foi, et pourtant, Dieu le fera d'autant plus volontiers pour nous. Ce qui met Dieu en branle, dans son envie de nous donner ce dont nous avons besoin, ce n'est pas la taille de notre foi, c'est son désir à lui. Dire que Dieu sait, dire que Dieu a décidé, désire nous venir en aide, répond à notre sentiment d'inquiétude. Ce n'est pas dit pour booster notre foi. Ça répond à notre souci, au souci que nous faisons, afin que nous osions, comme le disait Isaac le Syrien, nous faire violence pour confier à Dieu notre souci. Par contre, la foi dans le fait que Dieu désire nous venir en aide est la porte qui nous fait entrer dans le repos promis. C'est la porte qui nous permet de vivre le calme et la confiance qui nous font défaut.
Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celle qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent.
Demandez et vous recevrez. Nous l'avons lu déjà à deux reprises, Dieu sait que nous en avons besoin. Alors, à quoi bon demander si Dieu sait ? Dieu n'agit pas derrière notre dos, à notre insu. À ses yeux, nous ne sommes pas des rien du tout, des marionnettes dont il ferait ce qu'il veut, mais des personnes qu'il estime et respecte. Il ne s'impose pas, il s'invite et attend notre invitation. Demander, c'est lui dire « J'aimerais que tu sois présent sur la scène de ma vie ». Celui qui demande prend la parole. Il sort de la passivité, secoue la résignation, refuse de se soumettre au « on n'y peut rien ». Demander, c'est se tenir debout en personne responsable de sa vie. Si Jésus nous dit de demander, c'est qu'il sait que garder au fond de soi ce qui nous pèse ne nous vaut rien. Et finit par peser de plus en plus. Demander, parler, exprimer, c'est thérapeutique. Demander, chercher, frapper sont des verbes qui disent une action, donc une décision de notre part, une mise en route. Je vois une gradation dans ces verbes, une gradation dans l'effort et dans l'intensité. Demander n'exige de nous que de prendre la parole. Cela peut se faire dans notre chambre secrète. Chercher suggère un effort plus grand et dans la durée. Un déplacement aussi pour réfléchir et trouver des réponses ailleurs, dans des livres ou le partage avec d'autres. Frapper, ça mobilise de l'énergie. C'est aller plus fort, d'une manière plus incisive, réclamer, ne pas craindre de faire du bruit et d'attirer l'attention sur soi. Cela traduit qu'il y a en nous un désir si grand qu'il nous fait sortir de notre réserve habituelle. Et ces trois verbes suggèrent qu'il ne faut pas se décourager et oser insister et insister encore. Chaque verbe est associé à une promesse. Il recevra, il trouvera, on lui ouvrira. Quoi ? Ce n'est pas dit, on ne sait pas. Il nous est demandé de prier comme un fils fait une demande à son père, sans savoir ce que nous allons recevoir, mais dans la confiance que de toute façon, il y aura quelque chose et que ce seront de bonnes choses. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tous ces textes ont un point commun, la foi, la confiance, dans le fait que Dieu est là dans le secret, qu'il sait ce dont nous avons besoin, que nous avons de la valeur à ses yeux, que nous sommes assurés de recevoir. Mais la foi n'est pas le moyen d'obtenir l'exaucement de notre prière. La fin de la foi, ce n'est pas l'exaucement de la prière. Je me demande si la foi dans la prière ne va pas au-delà de l'exaucement, si elle ne va pas jusqu'à la personne même de Dieu. Et si ce quelque chose que je ne connais pas, mais que je suis assurée de recevoir si je demande, cherche et frappe, ce n'est pas la présence de Dieu. Pour dire ça, je pense à Job. Job était un homme juste qui servait Dieu et qui espérait bien que tout irait bien pour lui. Mais il a tout perdu. Ses richesses, ses fils, même la santé. Il était sur un tas de fumier. Il a tempêté. Il a réclamé. Il a pris Dieu à partie, il a clamé son désarroi, son désespoir, son désir de ne plus être sur cette terre. Dieu s'est tu longtemps, mais quand il lui a donné la parole, quand il a pris la parole, Dieu, il ne lui a pas donné d'explication, il n'a pas répondu à toutes ses interrogations. Ce qu'il a fait, il lui a dit, « Je suis Dieu, le Créateur. » Celui qui tient tout dans ses mains. Et Job a été satisfait. Ça a répondu pleinement. Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé en lui de très fort. Et il a eu cette phrase, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Je pense aussi à Paul, qui a demandé d'être délivré d'une écharde dans la chair, d'être guéri d'une écharde dans la chair. Il a prié longtemps, avec insistance, dans la foi, et il n'a pas obtenu de réponse. Ce que Dieu lui a donné, c'est une phrase un peu bizarre, hein, « Ma grâce te suffit ». Mais Paul, ça lui a dit quelque chose. Là, il a senti que Dieu était près de lui, que Dieu avait entendu, et que Dieu ne l'abandonnerait jamais. D'autres que ont témoigné de la présence de Dieu dans des moments difficiles, en disant, mais je ne comprenais pas, mais je sentais que Dieu était là, tout près, presque palpable à côté de moi. Au milieu de leurs questionnements, dans la maladie, la souffrance ou le danger, Dieu a surgi. Et ils ont reçu quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu, et qui était plus grand que l'exaucement de leur prière. Quelque chose qui les a satisfaits et les a remis en mouvement dans la vie. Et quand je pense aux victimes de la guerre ou personnes qui souffrent jour après jour de grandes souffrances, ce n'est pas quelque chose de facile, de gratuit que je vais dire là. Quand on voit qu'il n'y a pas de fin à tout cela, Peut-être que c'est ce que ces personnes reçoivent dans leur prière quand ils crient à Dieu d'y mettre fin, c'est cette présence et qu'elle est réelle. Paul, comme Jésus, Paul, dans son épître aux Philippiens, nous enjoint à ne nous inquiéter de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu, qui dépassera tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Osez tout dire à Dieu et le déposer. Se faire violence pour confier à Dieu notre souci et remplacer ma propre prévoyance par la providence de Dieu. Quand il s'agit de déposer quelqu'un qui nous tient, qui nous est cher, c'est parfois difficile. Mais c'est là que l'on reçoit le repos. C'est à ce moment-là que vient la reconnaissance, à cause de la foi en la personne de Dieu. J'aimerais vous lire un texte de Martin Luther King qui illustre bien ça. Il était couché, prêt à s'endormir avec sa femme, et il reçoit un téléphone de quelqu'un qui lui dit « Écoute, nègre, nous en avons assez de toi. Avant la semaine prochaine, tu regretteras d'être venu à Montgomery. » Bien sûr, après ce téléphone, il ne pouvait plus dormir. Il avait peur. Il aurait bien voulu abandonner. Mais il ne savait pas comment faire, quoi. C'était quelque chose qu'il habitait très, très fort. Et il s'est mis à prier. Et il se souvient encore de cette prière. Il a dit « Je me suis dressé ici pour ce que je crois juste, mais maintenant j'ai peur. Les gens se tournent vers moi pour être guidés et je vais devant eux sans force et sans courage. Eux aussi chancelleront. Je suis au bout de mes forces, il ne me reste rien. J'en suis venu au point où seul je ne peux plus faire face. À ce moment même, j'eus conscience de la présence divine comme jamais auparavant. C'était comme si je pouvais entendre la tranquille assurance d'une voix intérieure. Debout pour la justice, debout pour la vérité, Dieu sera toujours à tes côtés. Presque aussitôt, mes craintes commencèrent à me quitter. Mon incertitude disparut. J'étais prêt à tout affronter. La situation extérieure n'avait pas changé. Mais Dieu m'avait donné le calme intérieur. Trois nuits plus tard, notre maison sauta. Cela peut paraître étrange, mais je reçus calmement la nouvelle. Mon expérience avec Dieu m'avait donné courage et confiance. Et cette présence, cette révélation de Dieu dans les difficultés, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à la situation du moment et à la personne à qui nous sommes. C'est quelque chose qui est personnel à chacun. Vous êtes demandé tout le culte ce que c'était ça. Hein? C'est une via ferrata ou un acrobranche pour ceux qui ne pratiquent pas. La vie est souvent périlleuse, hein, avec des embûches. On ne sait pas toujours faire les bons choix. Il nous arrive des choses imprévues. Hein. On marche là-dessus. Et je pense que la prière, c'est ce qui nous raccroche à Dieu, qui nous empêche de tomber, notre assurance. Si nous ne prions pas, bon, la corde elle est longue, hein, parce qu'il a le temps quand même de tomber. Hein. Mais quand on est sur une via ferrata ou bien dans un acrobranche, moi j'ai confiance parce que j'ai essayé, hein, je me suis lâchée et puis la corde elle tient. Donc la prière, dans la prière, on reçoit cette assurance que la corde tient et on n'a plus peur. Voilà.
Pour la Sainte Cène, j'ai envie, dans la continuité de ce que nous a dit Denise, de donner un autre exemple de prière non exaucée, mais qui a eu des conséquences tellement gratifiantes pour nous. Je lis dans Jean. « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. » Donc c'est Jésus qui parle au Gethsémané. Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix du ciel vint et dit : Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre, mais d'autres disaient « un ange a parlé à Jésus dans ce temps ». Dans sa prière, Jésus parcourt le chemin qui sépare sa propre volonté de celle de son Père. Il sait qu'il va mourir et lui veut faire de sa mort une offrande de sa vie. Il a dit à ses disciples, lors du dernier repas qu'ils a réunis, mais lorsque la coupe qui leur a été donnée devint une coupe de souffrance qu'il doit boire, il a peur et il veut revenir en arrière. Et il le dit, Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Si prier, c'est être tel que nous sommes devant Dieu, à ce moment-là, la vérité de Jésus est celle de l'angoisse devant l'épreuve. Mais la parole n'est pas neutre. On n'est pas devant Dieu impunément. La prière nous évangélise nous-mêmes. Jésus, dans son combat, trouve la force d'assumer sa vocation. Au bout de sa prière, comme l'a dit Denise aussi, il reçoit le courage de l'acceptation. Et il dit, « Toutefois, que ne soit pas moi, ma volonté, mais que ce soit la tienne qui soit faite. » C'est alors qu'un ange lui apparaît du ciel pour le fortifier. Et dans cette sainte scène que nous allons prendre, c'est aussi ce signe justement que Jésus a traversé ses angoisses, a traversé sa peur, et que finalement sa peur, sa prière de ne pas boire de cette coupe n'a pas été exaucée. Mais il a assumé la volonté de son Père. Et en assumant la volonté de son Père, un ange lui est apparu pour l'encourager. Et nous avons ce pain et ce vin en signe d'encouragement, car au-delà de nos craintes, de nos questions, de nos incompréhensions, nous avons décidé aussi de faire la volonté de notre Dieu. Alors que ce pain et ce vin soient justement ce signe d'encouragement que Dieu nous adresse parce que nous avons décidé de suivre Jésus. Nous lirons l'institution de la Sainte Cène.
Je lis dans la lettre aux Corinthiens. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et il a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. »
Seigneur Jésus, tu es venu jusqu'à nous et cette sainte scène va venir jusqu'à nous comme un signe de ta présence, comme un signe de ton amour, comme un signe que tu es toujours avec nous. Je te remets chacun d'entre nous dans les circonstances qui sont les siennes afin qu'ils connaissent ta présence. Je remets aussi tous ceux qui nous tiennent à cœur, afin qu'ils reconnaissent ta présence. Merci Seigneur, parce que tu es là. Amen.
C'est vrai qu'en parlant de la prière, c'est quand même quelque chose qu'on peut faire beaucoup de théorie, mais c'est vraiment quelque chose que nous vivons dans notre relation avec Dieu. J'avais très envie ce matin de faire... peut-être la prière en petit groupe, parce que c'est là où nous pouvons vraiment nous retrouver, nous partager ensemble. C'est vrai que nous sommes nombreux. Est-ce que vous avez du courage de vous mettre en petit groupe? Je pense que je pense que la prière, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose qu'on partage. Ça paraît compliqué, non? Peut-être par 4 ou 5, ou si vous préférez vous lever, ce sera peut-être plus facile. Et puis on viendra vous distribuer la Sainte Cène à fur et à mesure dans les petits groupes. Alors peut-être levez-vous. Et donc comme d'habitude, dans les ronds, il y a... en rose, donc le sans alcool. Et puis ceux qui souhaitent la coupe, vous pouvez lever la main. Faites signe si on a oublié quelqu'un. Merci pour ce temps. Et c'est vrai, Seigneur, que la prière, c'est cette relation que nous avons avec toi. Et Seigneur, c'est quelque chose qu'on peut exprimer au fond de nous-mêmes ou qu'on peut exprimer en communauté. Et c'est ce lien que nous avons avec toi et qui est si précieux. Alors, Seigneur Jésus, que notre relation soit nourrie par notre dialogue entre toi et nous, nous et toi. Et Seigneur, que ce soit un dialogue régulier et Seigneur, que si c'est au fond de nos cœurs, si c'est au travail, si c'est au secret dans notre chambre. Et Seigneur, que merci parce que nous pouvons avoir ce lien avec toi et cette ta présence. Et je crois que c'est ça qui est important, comme l'a dit Denise, je crois que c'est ça qui est important dans notre vie avec toi. Alors Seigneur Jésus, sois béni et remplis nos cœurs aux uns et aux autres, et également à soi à Genève, tous ceux qui te célèbrent aujourd'hui à Genève et dans le monde entier. Et soit plus particulièrement aussi avec tous ces pays en guerre où les chrétiens sont malmenés ou sont martyrisés. Alors soit aussi plus spécialement avec eux. Amen. Voilà, nous aurons le temps de l'offrande avec un beau chant d'Exo, notre Père, d'Exo. C'est un magnifique chant et je l'aime beaucoup aussi parce qu'il y a un répondant homme-femme et je trouve tellement beau des fois d'écouter mes sœurs, d'avoir la voix de mes sœurs, et puis aussi peut-être pour vous d'avoir les voix de vos frères. Merci aux musiciens.
Alors on vous propose pour ce chant, donc pour qu'on ait bien les hommes et les femmes, donc les hommes vous allez chanter avec moi, et les femmes font les réponses avec Lorraine.
Oh,
Merci beaucoup. Merci les musiciens. C'est un beau chant, non ? Une belle prière. On va remettre l'offrande. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ce temps aussi d'offrande. Et c'est vrai, Seigneur, quand on lit cette prière de Gethsémané, on sait combien toi tu as donné. Et on se rend compte, Seigneur, de la grandeur de ton sacrifice. Alors, Seigneur, c'est vrai, accepte ces modestes offrandes de notre part, Seigneur, et notre cœur aussi. Et Seigneur, que tu bénisses aussi à ceux qui vont gérer cet argent, cette offrande. Seigneur, que ce soit pour l'avancement de ton règne. Alors, Seigneur Jésus, sois béni et garde-nous, Seigneur, Seigneur, tout puisse se faire selon ta volonté. Amen. Alors, nous aurons le temps des annonces. Avant que Michel arrive, j'aimerais juste demander à Clémentine, je crois qu'elle a une annonce particulière à faire.
J'ai parlé ça une fois, ça marche ? Il y a un mouvement à Genève qui s'appelle les Sentinelles, de laquelle je fais partie. Il y a d'autres dans notre paroisse qui font partie aussi. Et c'est comme aujourd'hui, on a parlé de prière, je tiens à vous encourager à vous rejoindre à ce groupe de Sentinelles. On n'est pas encore couvert sur Genève 24 heures sur 24. Il manque encore quelques personnes. C'est une heure par semaine. On va dire une heure de prière, c'est long. Ce n'est pas long. Nous avons une feuillette avec des sujets importants pour Genève et on n'a qu'à suivre ça. Et puis, s'il nous reste du temps de rester dans l'écoute, c'est aussi un temps béni. Alors, je vous encourage, si vous avez envie, dites-moi et je communique plus loin vos noms, votre adresse. Et c'est à vous aussi de choisir l'heure que vous convient. Soyez bénis, mes frères.
Merci.
Voilà, on a des diens aujourd'hui, c'est super. Voilà, aujourd'hui jusqu'à mercredi, c'est le camp du Capé. Alors, ils participent, ils sont une quinzaine. Il y a Roger pour l'encadrement, j'imagine. Relation. Ainsi que Xavier et Prisca, et puis également Charline. Et puis deux anciens catéchumènes qui accompagnent le groupe des nouveaux catéchumènes. Ils sont en Haute-Marne, c'est les vastes espaces verts de la Haute-Marne qui les accueillent, ils sont bien arrivés, ils y sont jusqu'à mercredi. Aujourd'hui, c'est le début de l'action Paquet de Noël, je crois. Hein? Ah ouais. Alors, viens.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, concernant notre action Paquet de Noël en faveur des pays de l'Est, j'avais omis dimanche passé de vous préciser quelques points, surtout concernant les denrées. Je vous rappelle qu'elles doivent être valables durant 6 mois. Et pour celles et ceux qui désirent confectionner leur paquet eux-mêmes, leur propre paquet, vous pouvez donc vous servir de cette feuille que j'ai posée vers le tableau d'affichage. Et au verso, vous trouverez donc tous les produits, les ingrédients que vous pourrez mettre dans le paquet. Donc je vous demande de suivre scrupuleusement ceci, ne pas remplacer par exemple le riz par de la polenta, ni de mettre des pots de confiture ou de miel ou des cornflakes, des choses comme ça, parce que ce n'est pas dans la liste. Donc c'est par souci d'équité pour les personnes. Et en plus, cela poserait aussi des problèmes à la douane, d'éventuels problèmes. Voilà. Et
tu avais encore, je crois, quelque chose. Et puis, on demande aussi des jouets et des choses comme ça. On veut vraiment toujours des choses qui sont comme neuves. C'est un cadeau qu'on fait. Donc, vraiment, dans tout ce qu'on donne, c'est avoir l'idée que c'est quelque chose de neuf. Aussi, donc, les denrées alimentaires, on a dit que les dates aillent assez loin. Et puis, on reçoit de temps en temps des gels douches. Ça ne nous arrange pas parce que sur la liste, c'est shampoing et savon. Alors, vraiment, vous tenir aux listes, ça nous arrangerait beaucoup.
Et puis, concernant notre collecte d'hier au centre commercial, j'aimerais, Denise a dit tout à l'heure, demander et vous recevrez. Alors, je peux vous dire que j'ai une très bonne nouvelle, nous avons effectivement reçu. Et très bien, puisque nous avons fait 26 paquets adultes, alors que l'année passée, nous en avons fait 15. Ah. Voilà. C'est vraiment un succès. Je suis très heureuse. Et puis, j'aimerais aussi profiter de remercier toutes les personnes qui nous ont aidées hier après-midi. Ainsi que je remercie, je pense en tout cas beaucoup à l'Église, la participation de l'Église catholique, qui ont envoyé environ une douzaine de jeunes, qui étaient présents toute la journée. Donc ce n'est pas par hasard qu'on a fait beaucoup plus de paquets, ils étaient vraiment à toutes les portes et très, très aimables avec la population. Voilà, je voulais le signifier. Je vous remercie.
Et puis juste encore un petit rappel, il y a un petit carton tire-lire pour ceux qui pour qui c'est trop lourd d'amener des affaires. Si vous nous donnez aussi de l'argent pour les paquets, ça nous permet de les compléter après avec ce qui manque. Et puis si vraiment il y a de l'argent en trop, on le donne aussi pour financer le transport. Voilà. Voilà.
Et puis dorénavant, donc, je vous rappelle que les lots sont à apporter en bas à la salle des Toons. Et à ce propos, malheureusement, on a oublié de nous mettre les tables. Donc, est-ce que deux hommes forts pourraient nous descendre une des tables ici? Voilà. Merci beaucoup.
Voilà. Je vous rappelle ce mardi, pardon, à 20h15, la soirée de prière communautaire. J'ai encore... Est-ce que pour la KO, c'est OK? La KO, c'est OK? C'est OK. C'est OK? Oui, c'est bon. On cherche encore quelques personnes. Vous pouvez vous adresser à Claudie pour le dimanche. Voilà. Et puis, dernière annonce. Nous avons une bonne nouvelle à annoncer à l'église, dit Thierry Terra. Lily est née ce matin à 8h15, c'était hier. Ce matin, c'était donc samedi. Elle pèse 3,7 kg et mesure 49 cm. Tous les détails. Lily et Rebecca, sa maman, se portent bien. Voilà.
Demander, c'est une action. Levez-vous pour recevoir. Il y a des moments où nos pas dérapent, où nos mains nues lâchent la muraille. La prière est le piton planté dans le roc. Il y a des moments où notre bateau s'affole dans les remous, où nos filins cassent dans la tempête. La prière est l'amarre fixée dans le roc. Il y a des moments où l'esprit s'égare, où le sens de l'orientation divague sous les magnétismes. La prière est la boussole. Elle permet de reprendre le cap. Prier, c'est s'accrocher à Dieu, s'encorder avec lui. Aller dans la paix du Seigneur qui nous écoute et qui toujours répond. Amen.
Bon dimanche. Je crois qu'il y a un grand petit café. Alors, pour un moment de convivialité, alors, profitez-en.